Je vous propose d'écouter Franck Laurent. Franck Laurent est un spécialiste de Hugo, et c'est pourquoi j'ai voulu qu'il vienne et que Hugo, le Victor Hugo des châtiments, soit présent. Les châtiments sont-ils des personnalités? Question que je posais tout à l'heure. Franck Laurent est professeur de littérature française à l'Université du Maine, au Mans. Lorsque j'étais professeur à l'Université du Maine, puisque j'y étais à un moment, certains, je précisais au Mans, parce que sinon on pensait que c'était le Maine outre-Atlantique. Il est donc l'auteur de nombreux ouvrages sur Victor Hugo, notamment un ouvrage intitulé « Espace et politique jusqu'à l'exil ». C'est donc l'un de ses sujets, et un autre de ses sujets, peut-être moins d'actualité pour notre problématique, c'est les rapports de Victor Hugo et de l'Orient. Il est l'éditeur de plusieurs anthologies de textes de Hugo et récemment d'une anthologie des choses vues. Son titre, je pense, est affiché « Puissance de la poésie, violence et justice dans Châtiment » de Victor Hugo. Vous avez la parole.
Merci Antoine Compagnon, merci de votre invitation. Bonsoir à tous. Alors, je ne vous étonnerai pas en vous rappelant que le talent polémiste de Victor Hugo est attesté et bien connu. Il s'est d'ailleurs exercé précocement, tant dans le champ littéraire que dans le champ politique. On peut dire qu'en vrac et sans exhaustive, qu'il repose sur le sens de la formule lapidaire qui fait mouche, sur un usage alterné ou mêlé de l'humour noir et du pathétique, sur le choc, le heurt, la violence volontiers faite au lecteur ou à l'auditeur, et puis aussi souvent sur une certaine conscience sociale, comme on dirait aujourd'hui. Alors, en guise d'abus de bouche, en quelque sorte, avant d'en venir à notre sujet principal, on peut donner quelques exemples de ce style polémiste de Victor Hugo. Ainsi, dans la préface de 1832 du Dernier jour d'un condamné, à l'occasion de la réédition de ce roman initialement publié en 1829, préface qui d'ailleurs constitue sans doute le premier pamphlet de Victor Hugo, beaucoup plus qu'une préface au sens classique du terme. À un moment, le préfacier, qui, encore une fois, s'occupe en fait très peu du roman qu'il a préfacé dans ce texte, le préfacier déplore que le débat sur l'abolition de la peine de mort, qui s'est ouvert fin 1830 à la nouvelle Chambre des députés, n'a au fond été ouvert et soutenu que pour éviter un sort tragique, c'est-à-dire l'échafaud, aux quatre ministres de Charles X, responsables des ordonnances liberticides qui déclenchèrent l'insurrection de juillet. Donc voilà ce que Hugo écrit. Vous comprenez qu'il est impossible d'envoyer à la grève, dans une charrette ignoblement liée avec de grosses cordes, dos à dos avec ce fonctionnaire qu'il ne faut pas seulement nommer, quatre hommes comme vous et moi, quatre hommes du monde, encore s'il y avait une guillotine en acajou. Un peu plus loin, dans le même texte, Hugo rappelle, et là on est plutôt sur l'usage polémique du pathétique, mais pas seulement. Hugo rappelle de qui s'occupe surtout la guillotine, indépendamment des convulsions politiques et loin de toute terreur politique. Si on l'avait proposé, cette souhaitable abolition, donc l'abolition de la peine de mort, si on l'avait proposé, non à propos de quatre ministres tombés des Tuileries à Vincennes, mais à propos du premier voleur de grand chemin venu, à propos d'un de ces misérables que vous regardez à peine quand il passe près de vous dans la rue, auquel vous ne parlez pas, dont vous évitez instinctivement le coudoiement poudreux, malheureux, dont l'enfance dégonillée a couru pieds nus dans la boue des carrefours, grelottant l'hiver au rebord des quais, se chauffant au soupirail des cuisines de Monsieur Véfour chez qui vous dînez. Et puis plus tard, dernier exemple préalable, à la tribune de l'Assemblée législative de la Seconde République, dans le très long discours et maintes fois interrompu, il semble que Hugo soit resté à la tribune plus de 8 heures. Discours prononcé donc contre la révision de la Constitution, révision voulue par Louis Bonaparte pour lui permettre de se représenter aux élections présidentielles prévues en 1952, ce que la Constitution de 1948 ne permettait pas. Donc cette formule lancée par le représentant du peuple Hugo, cette formule qui fera date, mais qui est d'abord prononcée à la tribune avant d'être imprimée sur la page de titre du célèbre pamphlet. Quoi ? Après Auguste, Augustule ? Quoi ? Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit ? Voilà. Bon, ceci posé, pour donner seulement quelques exemples de cet attirail polémiste de Hugo, ce qui va nous occuper principalement durant cette heure, c'est un livre de poésie. C'est un livre de poésie, d'une poésie de combat. Mais en fait, un livre, cette idée même de poésie de combat, dont le sens, la valeur, la possibilité même, n'ont pas été évidents, n'ont pas paru tels, y compris à Victor Hugo lui-même, dans un premier temps. Ce livre, bien entendu, c'est Châtiment. L'écriture de Châtiment, on le sait, elle est inséparable du coup d'État de Louis Bonaparte et ses suites immédiates. Et pourtant, Hugo n'a pas eu d'emblée l'idée de plonger la poésie dans la mêlée, de la compromettre, en quelque sorte, avec la violence politique du moment. Alors certes, l'attitude immédiate de Hugo, après l'échec de la résistance armée au coup du 2 décembre, est bien de continuer la lutte, et principalement par l'écriture. Cette conversion tactique, en quelque sorte, des moyens du combat, ce changement au moins provisoire du terrain d'affrontement, doit notamment conjurer la mélancolie qui guette inévitablement les vaincus de l'heure. Hugo s'y emploie, non sans enthousiasme, avec l'assurance de la victoire finale. Ainsi, dans une lettre écrite à Bruxelles dès les premiers jours de l'exil, le 17 janvier 1852, Hugo arrive à Bruxelles le 10 ou 11 décembre 1951, une lettre donc écrite à sa femme, Adèle, qui demeure à Paris pendant encore 6 mois environ. Voilà ce qu'il écrit. Probablement, j'arriverai à construire une citadelle d'écrivains et de libraires d'où nous bombarderons le Bonaparte. Si ce n'est à Bruxelles, ce sera à Jersey. Hetzel est venu me voir, donc Hetzel, le grand éditeur républicain, qui est encore, du moins, à l'orée de sa carrière d'éditeur d'ailleurs, mais qui va être le principal éditeur de Hugo pendant les 10 premières années d'exil. Hetzel est venu me voir, il a un plan d'accord avec le mien. Puis encore, le 26 février 1852, toujours à Adèle Hugo, mon livre avance, il s'agit alors de l'histoire d'un crime, qu'il interrompra un peu plus tard. J'en suis content, j'ai lu à des amis quelques pages qui ont fait grand effet, je crois que ce sera une bonne revanche de l'intelligence contre la force brutale, encrier contre canon, l'encrier brisera les canons. Certes, mais cette littérature de combat, littérature militante et même presque militaire, si l'on en croit les métaphores utilisées par Hugo pour la qualifier, cette littérature qui assume la violence politique, littérature qui même invite à la violence politique, à une certaine forme de violence politique, autant qu'elle s'y substitue, eh bien, force est de constater que cette littérature, elle est, à cette date, en prose. Qu'il s'agisse de l'histoire immédiate, le projet d'histoire d'un crime, qui sera finalement abandonné dans le courant du printemps 1852 et achevé plus tard, et puis finalement l'écriture du pamphlet, hein, gros pamphlet, hein, selon les normes du genre, du moins à l'époque, le pamphlet Napoléon le Petit. Et puis, bien entendu, les proclamations, les manifestes, les lettres ouvertes aux journaux étrangers, qui sont à peu près les seuls qui lui soient ouverts à cette date. Voilà ce que Hugo, alors, a en tête quand il imagine cette littérature qui doit briser les canons en ses premiers mois d'exil. Alors, non pas qu'il oublie la poésie à cette même date, mais il la distingue d'abord radicalement de cette littérature militante et violemment militante. Autre lettre à sa femme, cette fois du 22 mars 1852, donc toujours dans ses premiers mois de l'exil, il écrit « Histoire d'un crime ». Je suis jusqu'au cou dans mon cloaque du 2 décembre. Cette vidange faite, je laverai les ailes de mon esprit et je publierai des vers. » Donc, à la prose, la boue et le sang. À la poésie, les ailes de l'esprit. La division des genres est alors éthique autant qu'esthétique. Et à cela s'ajoute la distinction, tout aussi nette, entre public et privé, politique et intime. Autre lettre écrite à Bruxelles, datée cette fois du 17 mai, et adressée à toute la partie de la famille, disons, qui est encore restée à Paris. « Chère femme, ma chère petite fille, mon Victor, donc François Victor, le fils cadet de Hugo, que vous me manquez. J'ai ici de bien tristes heures, j'aspire au moment où nous nous retrouverons tous. Je voudrais voir sourire le doux visage de mon Adèle Dédé. » Adèle Dédé, c'est la Adèle fille. « Je me réfugie de toutes mes tristesses dans le travail, travail le matin, travail le jour, travail la nuit. Mais c'est encore une tristesse que ce travail-là, labeur austère de châtiment et de justice. Quand nous serons réunis, je ferai des vers. Je publierai un gros volume de poésie. Je m'y dilaterai le cœur et il me semble que nous aurons des heures charmantes. » Donc le cœur, la famille et la féminité, la douceur intime, habitent en quelque sorte un autre monde que celui où s'acharne la solitude virile du juge combattant, mais en prose. En quelque sorte, dans cette configuration mentale, la poésie est un repos du guerrier. Alors, il ne s'agit pas seulement à cette date, manifestement, de rassurer les membres du cercle de famille sur ce qui les attend quand ils auront rejoint l'exilé, puisque, enfin débarrassé de son travail de vidangeur, Napoléon le Petit sous presse à Bruxelles et lui à peine débarqué à Jersey, Hugo écrit à Hetzel le 15 août 1852 « Je puis avoir un volume de vers, Les Contemplations, prêt dans 2 mois. » Cohérence, manifestement, entre ce qu'il écrit au printemps à sa femme et à sa famille et ce qu'il écrit en été à son éditeur. Et puis pourtant, 3 semaines plus tard, tout change. Tout change et la répartition prose-poésie, jusqu'alors bien claire, se brouille. Et davantage, la poésie elle-même se trouve enrôlée moins par incidence que par, semble-t-il, une prise de conscience de la nécessité poétique autant que politique de cet enrôlement de la poésie dans le combat. Et cette fois, les métaphores guerrières, comme celle des châtiments corporels, jusqu'alors réservées à la prose, sont désormais également appliquées à la poésie. Lettre à Hetzel, du 7 septembre, donc vous voyez, 3 semaines après cette annonce des futures contemplations, 7 septembre 52, j'ai pensé, et c'est autour de moi l'avis unanime. Alors autour de moi, là, c'est le cercle de famille, en particulier ses fils, mais c'est peut-être aussi la colonie des émigrés politiques que Hugo fréquente à Jersey. J'ai pensé, autour de moi, c'est l'avis unanime, qu'il m'était impossible de publier en ce moment un volume de poésie pure. Cela ferait l'effet d'un désarmement, et je suis plus armé et plus combattant que jamais. Les contemplations, en conséquence, se composeraient de 2 volumes. Premier volume, autrefois poésie pure. Deuxième volume, aujourd'hui, flagellation de tous ces drôles et du drôle en chef. Alors encore un peu de temps, et l'articulation comme compensatoire entre poésie pure, autrefois, flagellation, aujourd'hui, cette articulation va se rompre au profit du seul second terme, flagellation, et au profit aussi d'une formulation plus nette de la puissance politique propre à la poésie, que la prose n'aurait pas. Cette affirmation, elle va passer par une autre articulation, par l'énoncé d'une autre complémentarité nécessaire, mais cette fois entre prose et poésie. C'est la lettre à Hetzel du 18 novembre, et on a une correspondance assez soutenue là, de cette qui marque, c'est assez précieux, pas si fréquent hein, dans le cas d'Hugo, mais là on a une correspondance avec Hetzel qui marque vraiment la genèse de Châtiment. Je fais en ce moment un volume de vers qui sera le pendant naturel et nécessaire de Napoléon le Petit. Ce volume sera intitulé « Les Vengeresses ». Mais un peu de temps avant de trouver le titre de Châtiment. Il contiendra de tout, des choses qu'on pourra dire et des choses qu'on pourra chanter. C'est important aussi parce qu'on rappelle souvent cette citation d'un carnet de Hugo, hein, « Défense de déposer de la musique au pied de mes vers ». Mais là, on voit bien qu'au moins dans ce cas de figure, Hugo espère, et il reprendra cet espoir, notamment avec les chansons des rues des et des bourrins quelques années plus tard, espère que Châtiment va pouvoir aussi servir au moins certaines de ses pièces de support à des chansons militantes. En fait. C'est un nouveau caustique que je crois nécessaire d'appliquer sur Louis Bonaparte. Il est cuit d'un côté par Napoléon le Petit, le moment me paraît venu de retourner l'empereur sur le grill. Le volume des Vengeresses, environ 1600 vers, sera fini dans 3 semaines ou 1 mois. Ainsi, vous voyez qu'en quelques mois seulement, mais de ces mois du début de l'exil, hein, qui sont déterminants pour la suite de l'aventure hugolienne, en quelques mois, donc, Hugo procède en subjectivité à un complet changement d'horizon quant à la nature et à la fonction du poétique face à la prose, comme face à la politique et à la violence qui est liée à la politique. Changement motivé d'abord par des raisons tactiques, en quelque sorte. Hein. Impossible de publier en ce moment un volume de poésie pure. Ce aurait l'air d'un désarmement. Mais aussi par des raisons stratégiques. La prose du pamphlet ne suffit pas. Il faut jeter dans la bataille ce corps d'élite encore non engagé, usé de cette arme de destruction massive jusqu'alors réservée dans l'esprit du poète à tout autre usage, c'est-à-dire la poésie. Alors cette compromission de la poésie avec la politique et avec sa violence, elle a une efficacité. Elle a une efficacité du côté de la réception, sans doute, au moins à terme, mais, et je m'y attarderai davantage, surtout, et d'abord du côté de la production, si j'ose dire, et ce, immédiatement. Parce qu'il faut bien se souvenir que Victor Hugo, qui est d'abord un poète aux yeux de ses contemporains, bien Victor Hugo n'a publié aucun recueil de vers depuis Les rayons et les ombres, en 1840, 13 ans déjà. Il faut se souvenir aussi que l'année 1841 voit, avec l'entrée du poète à l'Académie française, non seulement son entrée dans la carrière des honneurs, mais aussi sa déclaration de candidature à un destin politique actif et officiel. Toute cette séquence, donc, de part et d'autre de 1848, tend à confirmer objectivement, en quelque sorte, une répartition assez stricte entre politique d'une part, poésie de l'autre, et ce, indépendamment de l'évolution politique de Hugo. Or, cette répartition, précisément, Châtiment va l'invalider, publiquement et magistralement. Et d'abord pour Hugo lui-même, en quelque sorte au plus secret de l'énergie créatrice. Puisque, en quelques mois, on passe d'un désir de poésie compris comme compensation-récompense du travail d'historien et de pamphlétaire, à quelque chose qui ressemble, au contraire, dans l'écriture poétique militante et grâce à elle, à ce qu'il faudrait nommer, peut-être, la redécouverte d'un instrument quelque peu délaissé, arriver, aboutir à la preuve d'une puissance d'écriture qu'on pouvait croire jusqu'alors amoindrie, sinon moribonde. Expérience plus qu'heureuse, manifestement pour Hugo, littéralement jubilatoire. Aime écrire châtiment. Comme l'indique un mot à peine couvert, notre lettre à Hetzel, du 21 décembre 1852, « Je vous avais dit 1600 vers, il y en aura près de 3000, la veine a jailli, il n'y a pas de mal à cela. » Certes, d'autant qu'à l'arrivée, ce sera finalement plus de 6000 vers. Châtiments, qui sont, je le rappelle, écrits pour l'essentiel, à quelques exceptions près, avec des pièces qui étaient écrites plus tôt, mais beaucoup moins proportionnellement que ça n'est le cas pour les contemplations. Donc châtiments écrits pour l'essentiel en moins de 6 mois sont 2 à 3 fois plus épais que tous les recueils que Hugo avait précédemment publié. Pour ne rien dire de la très grande virtuosité formelle dont ce recueil fait preuve. Ainsi, on doit remarquer d'abord que pour l'histoire littéraire, comme pour les contemporains, et comme sans doute pour Hugo lui-même, châtiment, c'est d'abord cela, la remise en marche d'une machine poétique comme la poésie française dans la guerre connue et qu'avant 1853, on avait un peu prématurément mis à la réforme. Or, cette poésie, bien entendu, elle est politique. Elle est politique et elle est violente, indissociablement. Et cette double qualité, elle n'est pas passée inaperçue. Elle n'est pas passée inaperçue et elle a heurté. Et elle a heurté même les mieux disposés. À une époque où déjà un éditeur préférait publier de la prose, Hetzel, pourtant, ne semble pas s'être fait tirer l'oreille pour accepter d'éditer un ou deux volumes de vers signés Victor Hugo. Et pourtant, son accueil du livre en vers s'avère beaucoup plus timoré que pour le livre en prose précédent, le pamphlet Napoléon le Petit. Alors, bien sûr, il faut faire la part du temps, hein, et là, au sens de l'actualité politique. Politiquement parlant, 1853, date de publication de Châtiment, ça n'est pas 1852, date de publication de Napoléon le Petit. 1853, on est après le plébiscite triomphal de décembre 52 qui avalise le rétablissement de l'Empire et désormais Louis Bonaparte semble beaucoup plus solidement installé au pouvoir qu'on ne pouvait le croire juste après le coup d'État. Mais cette différence d'appréciation, elle porte aussi, de la part de Hetzel, sur, d'abord de la part de Hetzel, mais pas seulement, je crois, sur une certaine appréciation de la division des genres. Pour Hetzel, Châtiment, en effet, est plus violent que Napoléon le Petit. Et il passe peut-être les bornes que l'éditeur, pourtant, éditeur militant, hein, d'un pamphlet clandestin, passé sous le manteau, borne que donc cet éditeur avait admis de déplacer déjà, repousser assez loin dans le cas du pamphlet. Alors dans cette résistance, c'est peut-être d'abord une certaine idée de la poésie qui est en jeu. En tout cas, il est clair qu'elle s'exprime sur un recueil de poésie quand elle ne s'était pas exprimée pour une œuvre de prose, sur cette question de la violence du texte. Alors cette résistance, plus ou moins clairement exprimée au cours de l'hiver 52-53 dans leur échange entre Bruxelles et Jersey, elle va donner lieu de la part de Hugo à une mise au point particulièrement développée, ce qui est assez rare dans sa correspondance. La correspondance de Hugo est souvent une correspondance, surtout avec ses éditeurs, est souvent une correspondance d'affaires, très factuelle, très précise, et il est assez rare qu'on ait droit à des développements sur son projet littéraire. Mais là, c'est le cas. Et cette lettre assez longue, elle porte intégralement sur la question de la violence du recueil Châtiment et sur la justification de cette violence. Cette justification, elle va procéder en trois temps. D'abord, des arguments d'autorité, hein, mobilisés contre une certaine sagesse basse que Hugo, manifestement, qualifierait presque de morale d'esclave. Quelle morale verrait dans la violence un déni de puissance ? C'est ainsi que Hetzel entamait le débat. Un mot pourtant, cher compagnon de combat, il s'agit donc d'Hetzel. Vous me dites à propos de la mer, mais votre mer est transparente, qui est fort n'a pas besoin d'être violent. Or, je vous déclare que je suis violent. Votre maxime est une ancienne protestation des foyers contre les foyeurs. Jugez-la vous-même, ce qui est fort, etc. Or, Dante est violent, Tacite est violent, Juvénal est violent, Jérémie appelle Achab fumier, David appelle Babylone prostituée, Isaïe dit à Jérusalem, tu as ouvert tes cuisses aux membres des ânes. Jérémie et David et Isaïe sont violents, ce qui n'empêche pas tous ces punisseurs d'être forts. Laissons donc là les vieilles maximes et prenons-en notre parti. Oui, le droit, le bon sens, l'honneur et la vérité ont raison d'être indignés et ce qu'on appelle leur violence n'est que leur justice. Jésus était violent, il prenait une verge et chassait les vendeurs et il frappait de toutes ses forces, dit saint Chrysostome. Vous qui êtes l'esprit et le courage même, abandonnez aux faibles ces sentences contre les forts. Quant à moi, je n'en tiens nul compte et je vais mon chemin. Et comme Jésus, je frappe de toutes mes forces. Alors cette force de la violence, c'est en contexte politique celle de l'indignation contre les satisfactions, hein, celle de l'exilé contre le prince, celle de l'opprimé contre l'oppresseur. Mais c'est aussi celle de la poésie contre la politique. Ou plus précisément, la violence d'une politique poésie, en quelque sorte, contre une politique pouvoir. Or, c'est là que le bât blesse, manifestement, en tout cas aux yeux d'Hetzel et d'autres, on le verra. Dans sa correspondance de cette période, pas seulement à Hetzel, Hugo, en effet, ne cesse de s'étonner, ou de feindre de s'étonner, qu'on juge peu admissible dans le livre de vers ce qu'on acceptait dans le livre de prose. Vous voyez, une lettre à Hetzel, hein, enfin, un passage de toujours cette lettre du 6 février, « Napoléon le Petit est violent, ce livre-ci, châtiment donc, sera violent, ma poésie est honnête, mais pas modérée. » Et un peu plus loin, Hugo insiste, « Ce volume, d'ailleurs, reproduit complètement l'esprit de Napoléon le Petit. Figurez-vous que vous allez publier quelque chose comme Napoléon le Petit en vers. » Alors, venons-en maintenant au deuxième temps de l'argumentation de Hugo visant donc à justifier cette violence poétique. Ce deuxième temps, il est très brièvement exprimé, mais il est essentiel. C'est toujours dans la même lettre. Il s'agit, dès lors pour Hugo, d'assumer la division des classes. On analyse en termes de réception, dirions-nous aujourd'hui, et donc d'assumer que le lectorat est divisé en classes, principalement en deux grandes classes socio-économiques, en fonction, et cette division, il la convoque, il l'utilise essentiellement en fonction de leurs rapports respectifs supposés à la violence politique. Mais tout autant, et peut-être davantage, en fonction de leurs capacités poétiques respectives. Ces deux classes de lecteurs. J'ajoute que ce n'est pas avec de petits coups qu'on agit sur les masses. J'effaroucherai le bourgeois, peut-être. Qu'est-ce que cela me fait si je réveille le peuple ? Alors, on a en fait, dans ces deux phrases apparemment simples, une triple théorie. Une théorie de la réception culturelle, une théorie de l'action politique, une théorie de la pertinence poétique. En somme, Hugo affirme à la fois que le peuple est plus profondément endormi que les élites, que ce faisant, il convient de frapper plus fort pour le réveiller, que ce plus fort sera peut-être un trop fort pour les bourgeois, lesquels sont moins endormis peut-être, mais sont structurellement moins actifs. Les effarouchés, eux, qui ne sauraient suffire dans leur demi-sommeil comme dans leur demi-éveil à faire politique est secondaire face à l'alternative, elle, déterminante, sommeil du peuple, éveil du peuple. Car seul l'éveil de ce peuple endormi peut faire pencher la balance. Violenter le bourgeois n'importe guère, de toute façon, rien n'est farouche. Ce qu'il faut, c'est faire violence au peuple, et il a la tête dure. Alors Hugo s'appuie également sur, implicitement, mais de manière assez claire, sur une sociopolitique plus ou moins mythique, mais très répandue dans les discours du temps, qu'il reprend, mais dont, en quelque sorte, il renverse les directions idéologiques. Alors, cette sociopolitique de base, en quelque sorte, elle dit cela, le peuple est essentiellement versatile et le peuple est essentiellement violent. Il a la violence du sommeil comme il a celle de la révolte. Or, c'est la violence de sa révolte qu'il convient aujourd'hui de réveiller. Hugo s'appuie encore sur une autre mythique qui est cette fois celle pourrait nommer la mythique de la poésie primitive. Ce que Hugo remet ici en scène, c'est l'idée d'une réceptivité particulièrement forte du peuple à la poésie, à son éruptivité, à sa violence directe, contre les circonvolutions rhétoriques et rationnelles de la prose. Bref, implicitement, de manière assez claire, dans cette projection de la réception désirée de châtiment. Selon Hugo, le peuple est poétique et la bourgeoisie est prosaïque. Le peuple sent et apprécie ses coups martelés par le vers qui effarouche le bourgeois, fut-il lettré, fut-il républicain, fut-il Hetzel. Et il est vrai que châtiment creuse bien davantage que Napoléon le Petit la différence éthique et politique entre eux peuple et bourgeoisie, hein, que c'est bien du recueil de vers qu'on retient, beaucoup plus que du pamphlet en prose, qu'on retient par exemple l'attentisme et la compromission du bon bourgeois dans sa maison, hein, c'est pour reprendre le titre d'une des pièces de Châtiment, c'est le bon bourgeois dans sa maison qui parle, ce livre est fort choquant. De quel droit celui-ci est-il généreux, ferme et fier quand je suis lâche ? En attaquant M. Bonaparte, on me fâche. Je pense comme lui que c'est un gueux. Pourquoi le dit-il ? Soit, d'accord, Bonaparte est sans foi ni loi. C'est un parjure, un brigand, un faussaire. C'est le pire gredin qui soit sur cette terre. Mais puisque j'ai voté pour lui, l'on doit se taire. Écrire contre lui, c'est me blâmer, au fond. C'est me dire, voilà comment les braves font. Que voulez-vous ? La bourse allait mal, on craignait la République rouge et même un peu la rose. Il fallait bien finir par faire quelque chose. On trouve ce coquin, on le fait empereur, c'est tout simple. On le voulait éviter la terreur. Le spectre de M. Romieux, la jacquerie. On s'est réfugié dans cette escroquerie. Bon, ou encore, symétriquement, hein, c'est bien de châtiments qu'on pourra retenir, plus célèbre sans doute encore, et durablement célèbre, ces appels lancinants au peuple, notamment dans ce fameux poème Lazare, hein, Mais il semble qu'on se réveille. Est-ce toi que j'ai dans l'oreille, bourdonnement du sombre essaim? Dans la ruche frémit l'abeille. J'entends soudre un vague tocsin. Les Césars, oubliant qu'il est d'hégémonie, s'endorment dans les symphonies de la Baltique au mont Etna. Les peuples sont dans la nuit noire. Dormez, roi, le clairon dit au tyran victoire. Et l'orgue leur chante Hosanna. Qui répond à cette fanfare? Le beffroi. Lazare, 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 lève-toi. Alors, troisième temps fondamental de la justification de la violence de cette poésie politique, toujours dans la même lettre de Hugo à Hetzel, la sublimation de la violence en clémence implacable, pour reprendre une expression de cette lettre. Enfin, n'oubliez pas ceci. Je veux avoir un jour le droit d'arrêter les représailles, de me mettre en travers des vengeances, d'empêcher, s'il se peut, le sang de couler et de sauver toutes les têtes, même celles de Louis Bonaparte. Or, ce serait un pauvre titre que des rimes modérées. Dès à présent, comme homme politique, je veux semer dans les cœurs, au milieu de mes paroles indignées, l'idée d'un châtiment autre que le carnage,
Ayez mon but présent à l'esprit, clémence implacable. Alors, on aurait tort sans doute de lire « La violence des châtiments n'est que pure rhétorique ou rideau de fumée pour détourner l'énergie du peuple de sa vengeance légitime ». À la lettre, ce que Hugo écrit d'ici, c'est exactement l'inverse, et adossé à une conception implicite, mais assez ferme, d'une justice politique à la fois efficace et légitime. Cette idée, d'abord, c'est que seule la violence verbale, et mieux encore, seule la violence poétique, peut éviter la violence nue du carnage. Transmuer cette violence en authentique justice populaire, en la lançant sur les voies de la clémence implacable. Bref, à tous ceux qui, à mots couverts ou non, lui reprochent à l'heure de jouer avec le feu, hein, d'inciter dans le châtiment au déferlement de la haine sociale, Hugo répond ici que la violence de la poésie est nécessaire parce qu'elle seule peut être cathartique. Alors, illusion idéaliste ou plaidoyer pro-domo, peut-être, je noterai néanmoins que Michel Perrault, dans son grand livre sur les ouvriers en grève au début du XXe siècle, a montré que les chants d'ouvriers n'ont jamais été aussi violents qu'au moment où les actions de la classe ouvrière en lutte tendaient généralement à réguler, sinon à répudier, la violence physique, la violence nue. Il y avait une sorte de jeu de balance, et donc décidément l'épreuve d'une fonction cathartique de cette violence poétique. Toujours est-il que la violence de châtiment, leur violence ressentie, elle est bien là, et elle l'est peut-être d'autant plus ressentie qu'elle passe, et on en revient par un autre biais à ce que M. Compagnon étudiait tout à l'heure, elle passe par la violence des noms propres, plus exactement par la violence faite aux noms propres. On le sait bien, le nombre de noms propres dans châtiment est littéralement vertigineux. Peggy s'en extasie, déjà. D'ailleurs, on peut noter que la plupart des éditeurs modernes de châtiment ont opté pour l'index, parce que vraiment, la note en bas de page, ce n'est pas possible. Il y en a trop, et puis surtout, il y a trop de répétitions. Il y en a environ une vingtaine ou une trentaine qui reviennent, de ces noms propres, qui reviennent de manière lancinante. Alors, une lecture moderne a vu pendant un certain temps, dans cette accumulation de noms propres, l'étrange virtuosité, en quelque sorte, avec laquelle Hugo transforme ces noms, surtout quand ils sont employés dans des cascades énumératives, en une sorte de matière sonore, une sorte de remotivation, là, plutôt de, non, de démotivation du signifiant. Et c'est vrai que l'agencement en alexandrin ou autre vers de tous ces patronymes révèle une forme de virtuosité poétique qui a sa part d'efficacité. Mais en appuyant trop sur cet aspect, on occulterait précisément la violence politique et poétique de ces nominations. Parce que ces noms, c'est en quelque sorte, c'est le journal télévisé. Ce sont vraiment les 20 ou 30 personnes qui occupent les postes clés de l'État dans ces différents versants à partir du coup d'État. Donc ce sont vraiment des noms qui résonnent pour les contemporains d'une manière très particulière. Pas seulement. Que le lecteur contemporain a un peu tendance, évidemment, à oublier, parce que bon, c'est passé. Mais là, c'est de l'actualité. Même s'il n'en dit mot explicitement, il y a fort à parier que les réticences d'Hetzel face à la violence du recueil, elles proviennent en grande partie de cette fréquence assumée, lancinante, virtuose aussi, non seulement de l'injure, mais bien de l'attaque ad hominem, voire peut-être plus précisément en fait ad personam, en effet. Alors, un exemple parmi de très nombreux autres, juste pour... Mais ça peut être plus développé encore. Là, on n'a que quatre noms, on pourrait en avoir 10 ou 20. Mais bon, celui-ci peut suffire. Ô peuple douloureux, il faut bien qu'on vous venge. Les rhéteurs froids m'ont dit, le poète, c'est l'ange. Il plane, ignorant Fulde, Magnan, Morny, Maupas. Il contemple la nuit avec délice. Non, tant que vous serez complice de ces crimes hideux, je suis pas à pas, tant que vous couvrirez ces brigands de vos voiles, cieux azurés, soleils, étoiles, je ne vous regarderai pas. 4 ans plus tard, 1857, donc, Lamartine, dans un entretien de son cours familier de littérature, aborde directement la question, même s'il ne se résout pas à citer Châtiment et à nommer Victor Hugo, mais l'allusion est transparente. Cet entretien traite de la poésie satirique et Lamartine y fait l'éloge d'Auguste Barbier, on trouve également, et principalement donc des Iambes, hein, ce recueil de Barbier écrit et publié au lendemain de la Révolution de 1830, en particulier la célèbre pièce La Curée, qui constitue certes en 57 une référence déjà lointaine, hein, mais tenace. Hein, Barbier, les Iambes de Barbier vont constitué avant Châtiment, en tout cas, la référence principale pour la poésie française en matière de poésie satirique et politique. Or, Barbier refuse le nom propre, l'attaque ad hominem, et il se limite au type. Et c'est cela que Lamartine, notamment, admire chez lui. Et Lamartine reprend, sans le savoir, bien entendu, mais d'assez près, le discours de Hetzel, qui éprouvait les réticences qu'on a vues à propos de Châtiment. Lamartine accorde la force à Barbier et la refuse à d'autres, qu'il ne nomme pas, mais où l'on reconnaît évidemment Victor Hugo. De telles satires, donc celles de Barbier, de telles satires sont des coups de foudre et non des coups de lanière. Cela ne blesse pas, cela écrase. Les autres sont un supplice personnel infligé, comme disent les satiristes, par le fouet de la satire à des hommes dont ce fouet déchire la peau. Eh bien, quelle que soit la justice de ce supplice, nous ne pouvons ni approuver ni excuser ceux qui se donnent la mission de l'infliger au ridicule et même au crime de leur temps. On m'apportait, il y a peu d'années, en Italie, une de ces œuvres de colère légitime qui stigmatisent en vers terribles des noms d'hommes vivants et qui font saigner éternellement les coups de verge ou les coups de poignard de la plume. Comme j'exprimais par ma physionomie ma répulsion involontaire pour ces œuvres de colère, quelqu'un me dit « À quoi pensez-vous ? Ne faut-il pas que justice soit faite de toutes ces iniquités ? Ne faut-il pas que toutes les mauvaises fortunes aient leur némésis ?»« Oui, répondis-je, dans les sociétés d'hommes, un exécuteur est nécessaire à la justice. Il faut un bourreau, peut-être, quoique je n'en sois pas parfaitement convaincu, mais il ne faut pas être le bourreau. » Le satiriste sanglant est le bourreau des renommées. Il jette au charnier les noms dépecés de ses ennemis littéraires ou de ses ennemis politiques. Ce n'est pas le métier des immortels. Ce sont là de ces gloires dont on se repent. Il faut se les refuser, sinon par respect pour ses ennemis, du moins par respect pour soi-même. Or, et j'achèverai sur ce point, ce que je crois, Lamartine n'a pas compris, n'a pas voulu comprendre, c'est que cette dimension individuelle de l'attaque ad hominem, elle est en fait essentielle à la stratégie politique de Hugo dans le cadre des Châtiments. Et elle s'éloigne sans doute de ce point de vue de ce que nous avons pu évoquer, ce que M. Compagnon a pu évoquer dans l'usage des personnalités dans la guerre littéraire et journalistique. Car enfin, ce livre, Châtiments, dénonce donc les crimes du Second Empire, c'est aussi et peut-être d'abord un livre qui clame haut et fort la vertu de la conscience. La certitude que la résistance d'un seul, non seulement est légitime, mais peut sauver l'avenir. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. C'est un livre qui croit nécessaire de rappeler qu'une tyrannie est aussi, même si pas seulement, le fruit de choix individuels. Certes, Hugo n'ignore pas les responsabilités collectives. Les institutions entières, la magistrature, l'armée, l'Église, sont ainsi violemment dénoncées pour leur compromission active avec le coup d'État et le nouveau régime. On l'a vu, la passivité de la bourgeoisie, voire celle du peuple, donne lieu à des philippiques mémorables et justement célèbres. Et plus précisément, Hugo décrit à plusieurs reprises un collectif anomique dont la principale caractéristique est de se réduire sous le poids de la tyrannie à un agglomérat de groupes socio-économiques restreints, entièrement déterminés par leurs intérêts propres. Bon, par exemple, dans cette évocation du plébiscite de 52, lequel plébiscite accepte massivement la restauration de l'Empire. Ils ont voté. Troupeau que la peur mène paître entre le sacristain et le garde champêtre. Braves gens qui croyaient en vos foins et mettez de la religion dans vos propriétés, âme que l'argent touche et que l'or fait dévote, mère narquois traînant vos paysans au vote, marguilliers au regard vitreux, curé Camus, marchand dont la balance incorrecte trébuche, vieux bons hommes crochus, hibou, homme d'État qui déclarait devant la fraude et l'attentat, la tribune fatale et la presse funeste, contemplateurs béats des gibets de l'Autriche, gens de bourse effarés qui trichaient et contrichent, invalides, lions transformés en toutous, niais pour qui cet homme est un sauveur, vous tous qui vous ébahissez, bestiaux de Panurge, au miracle que fait Cartouche, thaumaturge, noircisseur de papier timbré, planteur de choux, est-ce que vous croyez que la France c'est vous, et que vous êtes le peuple, et que jamais vous eûtes le droit de nous donner un maître au tas de brutes? Donc là, on reste, vous voyez, dans une caractérisation de collectif, qui d'ailleurs, par leur définition, encore une fois, essentiellement socio-économique, si vous regardez, agissant selon leurs intérêts collectifs, échappent précisément à la conscience. Mais c'est précisément cette responsabilité générale qu'il conviendra aussi de, l'ayant nommé, circonscrire, voire à certains égards de conjuguer, afin de rendre possible la renaissance du droit, de la République, de la démocratie, afin de fonder un châtiment légitime autre que le carnage, et qui met un terme à la prorogation indéfinie de la guerre civile latente. Les attaques ad hominem de châtiment militent en fait pour une nécessaire individualisation du mal politique, seule apte à le circonscrire et à le traverser. On peut dire qu'avec elle, Hugo dresse son acte d'accusation. Il établit la liste des prévenus qu'il faudra juger à la libération. On est en fait très proche de la logique qui se mettra en place en 1944-1945 en France. Pour éviter le déchaînement de la guerre civile, il faut nommer des responsables et les juger. Le poète peut bien appeler à la barre le peuple ou la bourgeoisie, mettre en accusation l'Église, l'administration, la magistrature, condamner l'armée, ce dont Hugo ne se prive pas, on l'a vu. Mais ce ne sont là que des métaphores. Car un procès ne juge pas des groupes anonymes, il juge des personnes. Les noms propres issus de ces groupes, qui trouent avec lancinance les vers de châtiment, désignent ceux qui devront personnellement rendre des comptes à la justice. Même s'il est évident que cela ne suffit pas, il est tout aussi évident pour Hugo que la première étape dans la voie étroite et difficile qui mène de la tyrannie à la liberté consiste à rétablir, sous forme de procès, la question même de la responsabilité personnelle, trop aisément cachée sous les oripeaux anonymes de la raison d'État, voire des crimes d'État. Toute proportion gardée, on pourrait aller voir, de ce point de vue, du côté d'Hannah Arendt et du procès Eichmann. Toute proportion gardée, bien entendu. Alors, en guise de conclusion, on dira qu'il semble difficile de voir dans la violence exaltée de châtiment, comme ça a pu être dit parfois, l'expression d'une crise de l'humanisme politique. Principalement parce que l'usage de la violence poétique s'y veut essentiellement cathartique, et que, loin de s'y opposer, elle sous-tend et supporte les appels à la conscience et à la responsabilité du sujet. Rien de plus éloigné, donc, de cette esthétisation de la violence qui, à la fin du XIXe siècle et plus encore au XXe, accompagnera certains des grands mouvements politiques du temps et qui se soutiendra notamment d'une critique radicale de l'autonomie du sujet. Au reste, ce maintien envers et contre tout des catégories majeures de l'humanisme poétique a pu être considéré parfois par certains comme l'une des limites, voire comme l'un des mensonges de l'engagement politique de Hugo. Sa violence indignée, autant que son sentimentalisme paternel, demeure au fond indégrottablement bourgeois. Hein, voilà, en substance, on le sait bien, ce qu'un Guède ou ce qu'un Lafargue, à la fin du XIXe siècle, reprocheront à l'auteur des Misérables et des Châtiments. On oublie parfois de rappeler que néanmoins, ces critiques venues de l'extrême gauche socialiste ont été, même dans ces milieux, très isolées, très minoritaires. Lafargue ne trouve pas d'éditeur pour son pamphlet en 1985. Beaucoup plus représentative, sans doute, fut l'oraison funèbre de l'ancien communard Prosper Olivier Lissagaray, par ailleurs premier historien un peu sérieux de la Commune de Paris, qui écrit le 23 mai 1885, à l'occasion des funérailles de Victor Hugo, dans un journal intitulé « La bataille », et alors qu'ils songent sans doute avant tout à Châtiment, il a rempli de son contingent notre cartouchière. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Écoutez, c'était très beau. Les applaudissements vous ont montré comme nous avons apprécié. Ça tombe bien parce que vous nous avez montré que cette problématique des personnalités était bien présente dans les Châtiments. Et il est clair que c'est à l'esprit de Victor Hugo, lui qui disait ailleurs qu'il fallait éviter les personnalités.
Oui, tout à fait.
Avant, plutôt, il fallait éviter les personnalités. Et là, c'est le moment des personnalités, c'est-à-dire de cette utilisation des noms propres. Le passage que vous montriez là de Lamartine dans le cours de Familier de littérature est très intéressant de ce point de vue. Faut-il utiliser ou non des noms propres? Faut-il interpeller dans cette tradition qui remonte à, oui, à Aristophane, enfin, encore, c'est encore ça. Et alors, ce à quoi j'étais aussi très sensible, bon, je parlais en terminant de Peggy et de ce texte qui s'appelle « Personnalité », et où on retrouve cette inspiration hugolienne. Peggy dit: tous ceux qui m'ont reproché de faire des personnalités, ce sont les bourgeois. Ce sont les intellectuels et les professeurs qui, après son dernier cahier de la quinzaine, lui disent qu'il a été trop violent contre les politiques radicaux, déjà. Et il répond: mais je n'ai aucune protestation du peuple, comme s'il y avait des abonnés de la quinzaine du peuple, ça je ne sais pas. Personne parmi les abonnés populaires n'a protesté parce qu'ils savent que quand il faut taper, il faut taper. Et il n'y a pas cette hypocrisie qu'on peut trouver chez les intellectuels. L'autre point auquel j'étais très sensible, c'est ce que vous disiez des chansons. Puisque, en effet, dans tout ce 19e siècle, c'est la chanson qui est subversive et c'est la chanson qui est populaire et forme de protestation politique. Le pouvoir a toujours peur de la chanson, plus que de la poésie. Et la référence à la chanson est donc importante, mais elle n'apparaît qu'une fois, ou elle est plus... Vous l'avez citée à un moment, au début, je crois,
oui,
la chanson comme
arme. Contient, le Châtiment contiendra des choses de tout, des choses qu'on pourra dire, des choses qu'on pourra chanter.
Des choses qu'on pourra chanter, mais ça ne revient pas.
Oui, aussi, ça revient. Bon, Hugo sait très bien que le poète le plus populaire du XIXe siècle, en tout cas en termes de quantitatifs, si j'ose dire, en termes de chiffres de vente, comme on dirait aujourd'hui, c'est Béranger.
C'est Béranger.
Il le sait pertinemment. D'autre part, en tout cas, quand il est dans cette logique de poésie de combat, il sait, comme tout un chacun, comme vous l'avez rappelé, la poésie fait partie, sous cette forme, des pratiques militantes, des mouvements, des mouvements collectifs, des mouvements populaires, et continuera au moins jusqu'à la guerre de 14, voire au-delà. Ouais. Et donc, dans ces contextes-là, à ces moments précis, il est clair qu'il a pour ambition, d'une certaine manière, comme il a essayé de le faire pour le théâtre, de, à la fois, s'inscrire dans une tradition de grande poésie satirique, c'est Juvénal, c'est Tacite, etc., mais en même temps, de fournir, en quelque sorte, quelque chose qui pourrait être récupéré par les mouvements collectifs politiques qui l'appellent de ses voeux. Ça marchera pas très bien, mais un peu quand même. En tout cas, en termes d'utilisation chantée, je veux dire. Parce que sinon, les grands moments de réception des châtiments, c'est pas tellement le moment de sa publication, mais c'est 70-71, où là, c'est un succès mais absolument ahurissant et très populaire. Et puis, c'est aussi l'occupation. La résistance a beaucoup utilisé châtiment. Y compris, alors là, on a des diffusions sous forme de tracts, etc. Jusqu'à quel point Châtiment a pu être chanté comme l'espère Hugo, là, j'avoue que je crois que ça a été quelque chose qui a été un peu raté. Mais il y a beaucoup de chansons, de poèmes, hein, il y en a une dizaine, dans Châtiment, il y a une dizaine de poèmes qui s'appellent chansons. Pour revenir aux personnalités, je crois que Hugo, en effet, n'est pas du tout en désaccord avec, disons, l'opinion dominante que vous avez rappelée, retracée tout à l'heure, quand il s'agit de littérature. Et même quand on est, disons, dans une situation politique normale. Hugo utilise un autre terme qui recouvre pas exactement le même sens, mais qui recoupe quand même un peu, c'est pour le théâtre en particulier ce qu'il appelle les applications. C'est-à-dire, en fait, les allusions politiques. Et il s'est toujours défendu de faire des allusions politiques, et il a toujours estimé que c'était un ressort de succès indigne d'un véritable créateur. Même par la suite, ses ennemis littéraires, Dieu sait pourtant s'il en a eu, sont rarement désignés en toutes lettres dans aucune de ses œuvres. Même les hommes politiques qu'il apprécie peu, on peut le savoir dans ses carnets, par exemple, sont rarement nommés dans les recueils poétiques ou dans la littérature en temps, si j'ose dire, normal. Avec Châtiment, il y a vraiment l'idée, et ça, Hugo est explicite là-dessus, c'est qu'on n'est pas en temps normal. On n'est pas en temps normal, donc je crois vraiment à cette idée. C'est-à-dire, il faut nommer les gens qu'on devra juger, en particulier pour éviter que ça tourne au carnage.
Oui, c'est ceci.
Et là, du coup, on n'est plus vraiment dans la même logique de la personnalité, si je veux dire. On est vraiment dans une logique, je crois, juridique.
Ce n'est plus seulement satire personnelle.
Voilà,
c'est,
tout à fait.
D'ailleurs, ils sont là en accumulé, vous l'avez montré.
Ce sont les gens qui sont compromis officiellement avec le régime et qui ont éventuellement du sang sur les mains, même, d'ailleurs. Donc après, on évalue comme on veut ce jugement. Mais dans la logique, encore une fois, c'est assez proche je pense que Mme Sapiro aura peut-être l'occasion d'en parler dans 15 jours, dans la responsabilité de l'écrivain. Mais c'est assez proche de ces listes, par exemple, d'écrivains ou d'intellectuels qu'il s'agissait de juger. Alors, ça ne s'est pas fait comme ça. L'histoire n'a pas fait que les choses se déroulassent ainsi pour, dans le cas du Second Empire et de Hugo. Mais je crois qu'avec d'autres, il a vraiment très clairement pensé à cela, de rédiger un acte d'accusation.
L'autre point auquel j'étais sensible dans votre propos, c'était cette notion de représailles qui apparaît à différentes reprises, de némésis. Et là aussi, il y a une belle tradition du siècle à quoi rattacher la poésie comme némésis. Et c'est intéressant parce que vous citiez ce passage où ces représailles pouvaient se substituer au sang. Au sang.
Oui. La clémence implacable. Cette notion de oxymore assez amusant, mais
magnifique notion de clémence implacable, mm-hmm. qui fait que la poésie suffit comme représailles, comme attaque dont on ne se remet pas sans être exécuté.
C'est le pari symbolique, disons, mais qui, encore une fois, je pense, ne s'épuise pas lui-même. C'est-à-dire qu'il y a, avec Châtiment, de la part d'Hugo, la foi dans la puissance symbolique de la poésie. On pourrait presque dire aujourd'hui médiatique aussi. Le fameux je mènerai Louis-Napoléon Bonaparte à la postérité par l'oreille. Et qui n'a pas mal marché, au bout du compte. Mais je crois qu'il y a aussi l'idée que de toute façon il faudra en passer, et ça c'est dit explicitement dans le poème, mais dans des textes plus directs, si j'ose dire, des textes en prose, des correspondances, etc. Il y a la nécessité d'établir un système de procès. Il faudra des procès, il faudra juger et condamner sans peine de mort, et que c'est la seule manière d'éviter justement la tuerie. Donc, voilà, Châtiment a sa propre suffisance, mais incite sans doute aussi à une logique plus extérieure et de type juridique.
Oui, c'est la poésie comme acte d'accusation. Voilà. Et tout ça, en effet, rattache beaucoup ce terrain que je suis en train d'essayer d'explorer au procès. Au procès, cette dimension de combat littéraire, enfin, je l'évoquerai dans une des prochaines leçons, c'est ce couple duel-diffamation. Les deux sont inséparables, le duel et la diffamation. Enfin, je le citais même tout à l'heure, le seul moyen de répondre à la personnalité, c'est le duel. Et oui, d'ailleurs, Ilse Agaray, que vous citiez pour finir, est l'un de ceux qui s'est le plus battu en duel dans cette fin du siècle.
Communard et basque.
Communard et
basque. Oui. Ça fait plusieurs raisons.
Oui. Et si mes souvenirs sont bons, cousin de Granier de Cassagnac, que je citais, qui est le grand polémiste du siècle, il me semble qu'il y a un litige familial entre eux.
Ah oui,
j'ai oublié. Donc c'est lui qui a pris cet armement et qui, en effet, s'est beaucoup battu. Bon, écoutez, merci, je crois que c'était tout à fait topique.
Merci beaucoup. Merci à vous.